a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Avec Emmanuel Macron dans ce budget, ce sont toujours les mêmes qui vont payer.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Adrien Delgrange, ce qu'on dit les uns et les autres sur les plateaux de télévision. Et nous décrypterons cette parole avec vous. Jean-Philippe Dubrulle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint des études politiques à l'IFOP. Avec l'abandon d'une taxe sur l'essence et un coup de pouce au smicard, c'est ce qu'ont obtenu les gilets jaunes pour que l'on parle de ce qui les met en colère. Eh bien, le grand débat national qui se termine dans 5 jours, il va falloir éplucher les cahiers de doléances, les contributions en ligne. Mais dès aujourd'hui, La République En Marche, le parti présidentiel, met en exergue ses contributions censées offrir une sortie à la crise des gilets jaunes, justement. Lors d'un rassemblement à Chartres, après la récolte de 3500 contributions en ligne, la réalisation de 50 auditions au sein de 4 groupes de travail, parmi ces propositions, la réindexation des retraites sur l'inflation, alors que le gouvernement avait décidé de limiter à 0,3% la revalorisation des pensions en 2019, bien en deçà de l'inflation. Ça y est, on passe dans l'après-grand débat national, Adrien Delgrange.
Avec notamment ce premier commentaire signé Ségolène Royal, l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle, qui n'a d'ailleurs plus de mandat électif, aujourd'hui ambassadrice pour les pôles, s'appuie sur les mots du philosophe allemand Hölderlin pour imaginer l'issue du grand débat.
Comme disait Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Eh bien, il faut maintenant que ceux qui sauvent soient à la hauteur du péril que nous avons vécu et subi au cours des derniers mois.
Ségolène Royal sur BFM TV ce midi. Le président du Modem, François Bayrou, a souhaité aujourd'hui qu'émerge du grand débat national un projet de société.
Du grand débat va sortir, formulé par le président de la République au nom du pays, va sortir un nouveau projet national. Les gens, très souvent, ont dit pendant cette crise qu'ils ne se sentaient pas représentés. Il y aura des réponses de ce point de vue-là. Et il y aura une grande réponse, j'espère,
oui,
plus importante, qu'est-ce que la France défend dans le monde aujourd'hui ?
François Bayrou sur Europe 1 ce matin. J'ajoute que cet après-midi, une dizaine de ministres s'est réunie autour d'Édouard Philippe pour une réunion de travail et un point d'étape et de calendrier avant le lancement d'une nouvelle phase.
Jean-Philippe Dubrulle de l'IFOP. Les premières réponses de l'exécutif seront données dans un mois, en avril. Autant dire qu'Emmanuel Macron est attendu au tournant. Ce sera véritablement l'acte 2 de son quinquennat.
On peut en effet dire qu'il sera attendu au tournant. Il était même déjà attendu dès l'annonce de ce grand débat qui, on le rappelle, a été faite courant décembre pour répondre, a été la première véritable réponse du président de la République à cette crise des gilets jaunes. Il faut savoir que on a posé cette question à l'IFOP, dans le cadre d'un sondage IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio. En janvier et en février, environ 3/4 des Français, 74-76%, jugeaient que ce grand débat était légitime. Donc il y a une adhésion au principe de donner la parole aux Français, etc. Mais dans le même temps, seuls 4 sur 10 pensaient que l'exécutif, finalement, tiendrait réellement compte des propositions formulées lors de ce débat. Donc au final, on a quoi ? On a une adhésion de principe, mais une méfiance qui reste chez les Français et qui rend cette échéance de rendu des résultats du grand débat d'autant plus cruciale que s'il y a un effet déceptif à l'égard des Français et à l'égard de l'opinion, Emmanuel Macron pourrait être victime d'un retour de bâton particulièrement violent.
En tout cas, hier, les gilets jaunes n'ont jamais été aussi peu nombreux depuis le début du mouvement. Selon le ministère de l'Intérieur, 28 600 personnes sont descendues dans la rue, dans toute la France, 3000 à Paris. Le mouvement est-il mort ou est-ce qu'il s'offre un répit avant samedi prochain pour la fin du grand débat et le 5e mois d'anniversaire de la protestation ?
Alors, ce qu'on constate depuis plusieurs semaines, c'est en effet un reflux du mouvement des gilets jaunes, que ce soit en termes de participation, mais aussi de soutien dans l'opinion. Or, on a toujours, à date, on mesure une France coupée en deux à propos des gilets jaunes. On a grosso modo une moitié qui soutient, ou a du moins de la sympathie envers ce mouvement, qui se dit « je suis pas forcément d'accord, mais vous faites bien de vous battre pour ça », et une autre moitié de la France qui est vraiment hostile, qui met cela à distance. Donc une France coupée en deux, une échéance du grand débat qui arrive bientôt, une participation qui baisse, mais finalement la participation baisse, donc ce ne sont que les ultras, pourrait-on dire, qui restent dans les rues, les plus modérés des gilets jaunes sont, semble-t-il, rentrés chez eux. En stratégie militaire, on pourrait dire que les forces s'économisent et que si les résultats du grand débat mettent le feu aux poudres, ces modérés pourraient revenir s'agglomérer aux plus déterminés et relancer la mobilisation des Gilets jaunes. C'est un véritable risque si, encore une fois, les résultats du grand débat sont une déception à la hauteur de l'espoir qu'il a pu susciter.
Et dans le cadre de ce grand débat, Emmanuel Macron a encore échangé jeudi dernier avec 400 personnes dans les Alpes de Haute-Provence sur l'écologie, un thème jusqu'à présent peu abordé, hein, qui est considéré comme une priorité par les jeunes, Adrien.
Le chef de l'État à Gréoux-les-Bains cette semaine pour une étape de son grand débat, accueilli par une centaine de Gilets jaunes tout d'abord, gardés à distance du président.
Regardez, le président de la République qui se déplace, il lui faut encore mille et quelques gendarmes pour nous empêcher de l'approcher. Alors qu'on ne va pas le tuer, on ne va pas le lyncher. On veut juste qu'il nous voit. Mais lui, il ne veut même pas nous voir. Il nous prend pour de la merde, il nous prend pour des gueux.
La thématique de ce déplacement, vous le disiez, Philippe, l'écologie. Emmanuel Macron interpellé par un collégien de 14 ans.
Il faudrait savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer. Des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. Et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amené à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent?
Alors, Charlie, tu m'as dit que vous avez le pouvoir d'en sortir du jour au lendemain. Non, je peux pas du jour au lendemain dire tout le monde passe d'un modèle à l'autre. C'est impossible.
Emmanuel Macron à Gréoux-les-Bains cette semaine. Alors, à 5 jours de la fin officielle du grand débat national en France ce matin, Nadia Bellaoui, garante de ce grand débat, donne au micro d'Europe 1 une typologie de celles et ceux qui ont contribué.
Globalement, on peut dire que ce sont quand même des catégories sociales plus incluses, plus âgées aussi. Finalement, une physionomie qui ressemble beaucoup à l'électorat en France. Pour ce qui est des réunions locales et des consultations en ligne, oui, incontestablement, il y a une surreprésentation des retraités, une sous-représentation des jeunes et une surreprésentation de catégories sociales plus habituées à ce type d'exercice.
Nadia Bellaoui, garante du grand débat national sur Europe 1.
Et le gouvernement annonce que pour ce grand débat, il y a eu 10 000 réunions en 2 mois, 1,5 million environ de contributions sur la plateforme dédiée, 16 000 cahiers déposés dans les mairies. Jean-Philippe Dubrulle de l'IFOP, vous diriez que c'est un succès ?
Alors, l'annonce de ces chiffres peut, pour le gouvernement, c'est pour ça qu'il les annonce, faire figure de succès. Ces nombres importants, ce sont de premiers succès populaires, pourrait-on dire. Le grand débat a mobilisé, des gens sont venus ou ont donné à distance leur avis. Donc ça, c'est un premier succès qui est difficile d'enlever. En revanche, et pour rejoindre les propos de Nadia Bellaoui, quid des participants ? Qui, finalement, est venu ? Si les gens sont venus, c'est bien, mais qui sont-ils ? Qui sont ces gens qui sont venus ? A priori, ce sont, et on pouvait s'en douter, des gens plus adeptes de ce type d'exercice, donc des gens plus âgés, ça on l'a dit, et le gouvernement a d'ailleurs fait toute une série d'efforts pour essayer d'attirer des jeunes dans ces sessions du grand débat. Donc c'est un public plutôt âgé qui est venu. C'est un public par nature plus modéré, plus ouvert à la discussion et au débat. Donc d'un côté, on a des participants qui ne sont finalement pas représentatifs sociologiquement de la France. Ils sont plus âgés, ils sont plus modérés, etc. Et sur les thématiques, pardon, je dis justement plus modérés, rappelons que ce grand débat, il a été lancé en réponse à la crise des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes sont-ils venus dans ce grand débat donner leur avis pour faire remonter leurs demandes? C'est une véritable question, et ça, on ne le saura finalement que une fois l'analyse de tout ce corpus de contributions réalisées.
Je le disais tout à l'heure, La République En Marche était réunie aujourd'hui à Bourges. Elle propose une meilleure prise en compte du vote blanc ou encore un alourdissement de l'impôt sur la fortune immobilière qui a remplacé l'ISF. Et puis le patron du parti, Stanislas Guérini, évoque des propositions de loi citoyennes. Dès qu'un sujet mobilise un certain seuil de citoyens, 1 million par exemple, un projet de loi est élaboré par une conférence de consensus de citoyens tirés au sort avant d'être examiné par l'Assemblée, propose-t-il. Les Gilets jaunes qui exigeaient le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, ont-ils donc été entendus ?
Le problème du gouvernement, c'est peut-être un problème de timing, d'arriver assez tard avec ces propositions-là, parce que dans les différents sondages qu'on réalise sur le grand débat, la première thématique, la plus importante de toutes celles proposées par le grand débat, pour les Français, c'est la fiscalité, pour 48%. C'est ça avant tout. Arrive en deuxième, les institutions. Et là, on revient aux propositions que vous détaillez. Le problème, que je le disais, c'est que le gouvernement arrive un peu tard, parce que toutes ces propositions, pardonnez-moi l'expression, font un peu figure de petit bras face à l'idéal que s'est forgé le mouvement des Gilets jaunes, celui du RIC, du référendum d'initiative citoyenne. Maintenant que toute cette contestation a cristallisé cette demande qui est très particulière, le référendum d'initiative citoyenne. Si la majorité propose des choses, aussi constructives soient-elles, tant que ça reste en dessous, il y aura, ce dont je vous parlais tout à l'heure, cet effet déceptif. Cet effet, on a demandé tant, on nous donne moins, donc on se moque de nous. Et donc, il serait légitime de reprendre la contestation.
Jean-Philippe Dubrul, directeur adjoint des études politiques à l'IFOP.
Philippe Le Caplin.
Revenons à présent sur la tribune que le président de la République a signée cette semaine dans les journaux de 28 pays de l'Union européenne. Emmanuel Macron y appelle à une renaissance européenne pour contrer le repli nationaliste. Jamais, dit-il, depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire et pourtant jamais l'Europe n'a été autant en danger. Un plaidoyer en faveur de l'Europe pour lancer en quelque sorte la campagne pour les élections au Parlement européen, et cela fait réagir.
Avec notamment, Philippe, des références à sa fille de 10 ans, mais aussi à l'Allemagne. Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, a réagi à sa manière à cette tribune d'Emmanuel Macron.
Vous savez, la meilleure réponse, c'est Annegret Kramp-Karrenbauer, la patronne de la CDU, qui, comme dirait ma fille qui a 10 ans, a administré un vent à Emmanuel Macron. Avant de donner des leçons aux autres, regarde ce que tu fais chez toi. En gros, elle lui a dit, quand on a aujourd'hui les impôts les plus élevés, le déficit budgétaire le plus élevé de la zone euro, le déficit commercial le plus élevé de la zone euro, on ne réclame pas plus d'étatisation, plus de mutualisation de la dette, oui, plus d'irresponsabilité sociale.
Alors, plus d'irresponsabilité sociale, dit Éric Ciotti sur RTL. Quant à La République En Marche, toujours sans tête de liste, Nathalie Loiseau a une fois de plus décliné une éventuelle proposition ce matin chez nos confrères de France Inter. La ministre chargée des Affaires européennes prédit, comme Emmanuel Macron l'a déjà fait en France, un éclatement des partis traditionnels en Europe.
Les partis traditionnels sont en perte de vitesse, qu'il y a un bouleversement politique que l'on constate partout à travers l'Union européenne, avec des risques, c'est-à-dire la montée des nationalistes. Mais aussi, on a vu émerger en France une offre progressiste nouvelle avec Emmanuel Macron et avec En Marche. Ça veut dire que demain, au Parlement européen, c'est pas la co-gestion entre deux gros partis vieux et fatigués, c'est au moins 5 groupes de taille comparable, et ça veut dire que les choses vont bouger.
Et puis enfin, à gauche, pas d'union, le PS, les Verts, la France insoumise n'arrivent pas à s'entendre pour ces européennes, ce que déplore Ségolène Royal.
Ce qui est désolant, c'est qu'il y ait cette dispersion de la gauche et des écologistes qui ont en plus gouverné ensemble. Quand on a gouverné ensemble, tous ces gens qui ont été ministres dans les mêmes gouvernements, franchement, ils pourraient se rassembler pour faire une offre politique dans le cadre d'un débat démocratique, une offre politique au moment des élections européennes. Mais les esprits d'appareil et les égos de ces messieurs l'ont emporté sur cette dynamique d'union. Ils ont préféré sacrifier les enjeux idéologiques, philosophiques, politiques de l'avenir écologiques de l'avenir de l'Europe pour se battre entre eux dans une bataille de confettis verts.
Ségolène Royal sur BFM ce midi, Philippe.
Dispersion de la gauche, dit-elle, on va y venir. Mais tout d'abord, la droite. Bellamy, le débutant qui défie Macron, c'est le titre qui barre toute la une du journal du dimanche. L'hebdomadaire permet de faire connaissance avec celui qui emmène la liste de LR aux européennes. Alors, il a fort à faire, puisqu'il y a encore un sondage IFOP. Seul un Français sur quatre sait plus ou moins qui il est, Jean-Philippe Dubrul.
Or, seul un Français sur quatre sait plus ou moins qui il est. En effet, pour un débutant, on peut se dire que c'est normal. Ce qui est plus rassurant pour lui, c'est que chez les sympathisants, les Républicains, ils sont 67% à le connaître. C'est déjà plus prometteur au niveau électoral. Il y a quand même quelque chose à remarquer pour une nouvelle tête telle que François-Xavier Bellamy, c'est que depuis qu'il a été annoncé comme tête de liste, intronisé comme tête de liste de LR aux élections européennes, les intentions de vote en faveur de la liste LR n'ont pas baissé. Au contraire, elle se porte plutôt bien par rapport à de précédentes mesures.
C'est-à-dire qu'une tête nouvelle, c'est un pari réussi pour Laurent Wauquiez, qui lui, par contre, pâtit de son image dans l'opinion.
En effet, a une image très clivante, que ce soit au niveau de l'opinion dans son ensemble, ou même à droite, et chez sa famille des Républicains. Donc oui, le choix de François-Xavier Bellamy, c'est un peu pour LR l'occasion de se refaire une virginité en vue de ses élections.
Si vous me permettez de citer l'un de vos concurrents, l'Institut Elab, met en avant que pour les Français, les Républicains n'incarnent pas l'opposition, qui voit en revanche en lui le défenseur des classes aisées. Si ce n'est pas LR qui incarne l'opposition, c'est qui ?
Alors, héritage de la recomposition politique consécutive à l'élection d'Emmanuel Macron, véritablement, le paysage politique a été complètement fragmenté par l'élection d'Emmanuel Macron. Les partis gouvernement ne sont pas arrivés à se reconstruire. LR pâtit en plus du fait que La République En Marche phagocyte une partie de son électorat. Donc, historiquement, la droite républicaine représentait un public, certes, plutôt nanti, plutôt âgé. Ce public est parti pour une part de lui chez La République En Marche. Et qui reste-t-il au final? C'est le Rassemblement National. Parce que LR, prise en étau entre La République En Marche et le Rassemblement National, ne parvient pas à se déployer. La gauche, on l'a dit, et c'est Ségolène Royal elle-même en faisait l'amer constat, la gauche est atomisée en vue de ces élections européennes. Donc au final, ce qui se dessine dans les intentions de vote, comme on le mesure d'ailleurs dans l'Euro-Rolling IFOP que nous avons lancé la semaine dernière, qui est une intention de vote aux élections européennes quotidiennes, remise à jour quotidiennement.
Jusqu'au 26 mai.
Jusqu'au 26 mai. Le duel annoncé, c'est ce qu'on mesure, c'est les deux montagnes, La République En Marche versus le Rassemblement National, et les autres n'existent quasiment pas.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Des milliers de personnes ont une nouvelle fois manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes de France, comme on le disait tout à l'heure dans le journal, cela contre la candidature du président Bouteflika à un cinquième mandat en Algérie. Souvent revêtu de drapeaux algériens, 10 000 personnes étaient réunies sur la place de la République à Paris. Alors compte tenu des liens étroits et historiques que la France a avec l'Algérie, la classe politique a commenté bien évidemment ce dimanche, Adrien.
Et pourtant une parole toujours timide des élus français sur ce qui se passe en Algérie en ce moment. Écoutez tout de même celle de François Bayrou, président du Modem, aujourd'hui maire de Pau et toujours proche d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé sur la question.
C'est tout un peuple qui se réveille. Des millions et des millions de personnes qui descendent dans la rue sans aucune violence. Et ces millions et millions de personnes, elles disent quelque chose de très simple, c'est que rien ne doit plus être comme avant. Le cinquième mandat apparaît pour une grande partie de l'opinion, et peut-être pour une grande partie des responsables algériens, même s'ils ne le disent pas, comme le mandat de trop qui ne pourra pas être fait.
Quant à Éric Ciotti, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, surpris, étonné de voir des drapeaux blancs et verts de l'Algérie flotter en France à l'occasion des manifestations contre un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika.
Moi, je crois que quand on est en France, on parle d'abord de la France et que l'expression aujourd'hui de revendications qui ne concernent pas directement notre pays, avec l'affichage de drapeaux qui sont autres que le drapeau tricolore, c'est pas quelque chose que je regarde avec enthousiasme, on va dire.
Éric Ciotti sur RTL ce matin.
Jean-Philippe Dubrulle, 760 000 immigrés algériens vivent en France, selon l'Institut National Français de la Statistique, l'INSEE. Ils sont 1 700 000 si on y ajoute leurs enfants nés en France. Autant dire qu'il y a là un électorat pour la classe politique qui les emmène forcément donc à prendre position, comme on vient de l'entendre.
Tout à fait, un électorat donc des prises de position, mais aussi un double risque pour le président de la République dans cette affaire. Un premier risque diplomatique, puisque la doctrine actuelle du Quai d'Orsay, c'est de marcher sur un fil, hein, c'est de dire ni l'un ni l'autre, ni ingérence, ni indifférence, pour citer le Quai d'Orsay, parce que dans un cas comme dans l'autre, que risque une prise de position d'Emmanuel Macron, ça risque de faire quoi auprès de la communauté algérienne vivant en France? S'il intervient et prend position, il y a un risque de le taxer d'ingérence. S'il se met véritablement en retrait, on peut lui reprocher cette inaction. Donc un risque politique pour le président de la République, et aussi si la situation s'envenime en Algérie et que les franco-algériens, leurs familles, leurs proches, etc., s'il y a un flux de l'Algérie vers la France, cela peut alimenter l'extrême droite en vue des élections européennes.
Merci pour ces commentaires et ces analyses. Jean-Philippe Dubrulle, directeur adjoint des études politiques à l'IFOP. Sachez que Mardi Politique sur RFI recevra Aurore Berger, députée des Yvelines et porte-parole du mouvement La République En Marche. C'était Dimanche Politique, réalisé par Hélène Avril. Merci pour votre attention. Moussa.